faites entrer le film, épisode 40. Salut les garçons.
Salut.
Salut.
Comment ça va, Olivier?
Ça, écoute, ça va très très bien. J'ai pris ma dose de Xanax avant de regarder ce film que j'ai regardé cette nuit. Et en forme, ça va, je suis content, je suis en week-end.
C'est dommage parce que le Xanax, il faut 15 jours pour que ça fasse effet.
Mince.
Donc tu l'as pris pile au bon moment.
Zut.
Et toi, V, ça va?
Bah, sous anxiolytique, mais sinon c'est bon.
Et B, une belle bande de dépressifs, on dirait.
Et toi, Kev?
Ça va très bien. Très très bien. Bon. Vous avez un petit truc pour l'intro du jour?
Ben, on peut juste dire qu'on s'est vu hier.
Ouais.
Pas tous en même temps.
Pas tous en même temps, ouais, non, parce qu'on n'a pas réussi à se capter tous les trois en même temps. Parce que le point central, c'était encore une fois ma boutique. Mais voilà, vous vous êtes raté et retrouvé après. Mais ouais, on s'est vu hier vite fait. C'était cool, c'était sympa.
C'était très cool.
On s'est retrouvé dans un bar avec Vivien.
Ouais, pour regarder un match de rugby.
Vivien m'a vu dans mon environnement professionnel.
Ouais, je t'ai vu mais travailler, mais vraiment, oui. Genre bosser dur, avoir des responsabilités. Ouais.
Et en fait, ça va. Hein.
Bon, après, ça va, tu vois, c'est toi, quoi.
Bah oui, moi je suis pareil au travail qu'à l'extérieur, hein. J'ai pas de filtre, de la même.
Mais voilà, mais c'est génial, ça, c'est le plus de ta boutique.
C'est ce que j'aime bien, en effet, c'est la chance que j'ai de pouvoir travailler sans pouvoir forcément porter un masque ou, tu sais, c'est vraiment cool.
Bref. En même temps, t'es obligé, hein, Covid.
Oui, évidemment.
Covid style.
Et ouais, c'est ça.
Et Vivien m'a vu crier devant un match de rugby, donc.
Ouais, c'était très marrant. Ce mois, étant donné que je suis pas du tout le rugby, je comprenais pas grand chose, mais c'était fun.
Moi, j'ai dit aux gens qui connaissent pas grand chose au sport et qui vont dans un bar, j'ai dit, vous gueulez en même temps que les autres. Quand vous voyez un truc à la télé, vous gueulez. Personne vous jugera parce qu'on est là pour ça. Eh bien, on a eu une intro pas éclatée.
Une intro pas éclatée.
Une intro
c'est
quand
ça.
Même.
Ouais, ouais, une petite
non,
intro.
Non, ça va.
Sympa.
Ouais, on se prépare pour le film, c'est ça. On est zen.
Exactement.
Alors zen, le film ne l'est pas forcément. Hein, mais
oh, d'accord. Ça dépend. Ça dépend de sous quelle angle tu le regardes.
Oui, voilà, ça va. Il y a plein de couleurs.
Donc V, nous t'écoutons.
Aujourd'hui, on va suivre un mec qui va s'engouffrer dans une aventure sombre et tortueuse. Accompagné de plein de pornos, notre détective privé ne s'imaginait pas qu'il irait aussi loin. Bienvenue dans 8 mm.
Excellent.
Excellent. Donc, 8 mm, un film sorti en 1999 de 123 minutes, du genre thriller, réalisé par Joel Schumacher, ou Schumacher, comme vous voulez, avec Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormare, Anthony Hill, Chris Bauer, Maria Carter, Catherine Keener, Amy Morton et Norman Reedus. Oui, j'ai lu toute la fiche de...
Yeah. Daryl.
Dans yeah. Walking Dead,
dans
parce
Walking
que juste
Dead.
Dire Daryl, ouais, ça fait bizarre. Il a coûté 40 millions de dollars. Il en a récolté 96 618 000 dollars. Mais que 36 millions aux États-Unis, donc nous pouvons, sans nous avancer, dire que c'est un échec.
C'est un échec commercial, je suis d'accord, c'est ça.
Et critique, avons-le,
et critique,
hein,
oui, oui, oui.
Il s'est fait éclater aussi sur... Bon, Rotten Tomatoes lui donne que 22% d'opinion favorable, Metacritic 19 sur 100. Mais bon, on va rien dire parce que... On a vu des films qui avaient des meilleures notes et qui n'étaient pas forcément meilleurs. J'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'on en a déjà parlé.
Oh oui, on en a déjà parlé.
Ensuite, je crois que j'ai fini ma préparation. Ah non, petite info supplémentaire. En Allemagne, il était interdit au moins de 18 ans. Aux États-Unis, il était restricted, donc interdit au moins de 17 ans. Et en France, il était interdit au moins de 16 ans. Et fun fact... La première fois que je l'ai vu, c'était sur TF1 à 23h, donc en deuxième partie de soirée, parce que les films n'étaient pas autorisés à être diffusés avant.
Je l'ai vu au cinéma en Angleterre, puisque je bossais en Angleterre, j'ai vu en Angleterre à ce moment-là. Voilà.
Deuxième fun fact, parce que j'aime bien les fun facts, et c'est pas le nom de l'émission, mais j'aime bien quand même. J'avais trois idées de films pour cet épisode, donc 8 mm, The Fun Game et Nombre 23. Les trois qui sont réalisés par par le même réalisateur. Et je trouve ça assez drôle parce que je n'en avais pas conscience avant.
Ouais, c'est marrant, tu me l'avais dit, je sais plus quand on s'est vu tous les deux jeudi dernier, je crois, tu m'avais dit ça. Et moi non plus, ouais. Je savais pas, par exemple, que j'avais pas percuté que Schumacher avait réalisé Fun Game. Je savais pour 23, mais je savais pas pour Fun Game, ouais, c'est marrant.
Ouais, j'avais pas fait le lien. Et on va donner une dernière petite info sur le film. La musique a été faite par Michael Dana, et on sait tous qu'il vient de la tribu. Et voilà. Bon, c'est pas tout, c'est pas...
Ouais, c'est pas...
Hein. Je sais plus ce que je voulais dire, ouais. Mais moi j'ai
pas
bien envie...
Le tampax.
Ok, j'ai bien envie qu'on s'introduise totalement dans le film avec la première scène narrée par Olive.
Oh yeah. Eh bien, le film s'ouvre sur un projecteur de film 8 mm, du coup. Donc, on est exposé juste à la lumière. On n'a aucune image. On voit simplement différents plans de la caméra, en fait, qui va tourner plus ou moins autour de ce vieux projecteur de film. S'ensuit un fondu transition et on va voir apparaître Nicolas Cage qui débarque à Miami. On comprend très rapidement qu'il est en filature. Il va y avoir plusieurs transitions de ce style-là. Il va arriver à l'aéroport, on va sortir de l'aéroport, toujours en train de suivre quelqu'un, on va le comprendre après, jusqu'à arriver sur le strip de Miami en fin de journée. Il prend quelques clichés et il rend son contrat. On comprend alors que c'est un privé, en fait, et qu'il avait été missionné par le beau-père de la personne qu'il suivait, de l'homme qu'il suivait, pour s'assurer que c'était un gars bien. Et en fait, ben, le beau-fils n'est absolument pas un gars bien puisqu'il fricote. On a l'exposition de notre personnage principal et c'est la fin de la première scène.
Exactement, c'est ça. Donc, voilà, on s'est compris.
Qu'avons-nous à dire sur cette scène ?
Bah, pas grand-chose.
Elle explique très clairement, on comprend. Bon, évidemment, on sait que Nicolas Cage est la tête d'affiche du film, hein, c'était l'acteur bankable du moment, en tout cas pour ce film-là. Et on comprend très bien ce qu'il fait, même si tu le comprends pas quand il arrive à l'aéroport, mais tu le comprends tout de suite, ne serait-ce que dans les plans de caméra, je pense. Tu vois qu'au premier plan, il y a la personne qui suit, c'est des jeux de regard de Cage qui se met à courir par moment, on voit bien qu'il est en filature. Donc on comprend, avant même que ce soit vraiment clairement explicite, on comprend ce qu'il fait. À minima, on sait qu'il suit quelqu'un. Et le fait qu'il rende son contrat avec des clichés, etc., qu'il apporte des preuves après, on comprend que c'est un privé, en fait.
Exactement. Et dans la seconde scène, on en apprend un peu plus sur sa vie maritale.
Ouais, et je vais avoir des choses à dire sur ça. Après, vu que je pense que tu as un plan, on en parlera au moment adéquat.
Ouais, j'ai un giga plan. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle donc du personnage Nicolas Cage. Enfin, celui qui est montré avant. Qui récupère donc sa quête du film. Donc comment on le décrit dans la première et surtout dans la seconde scène ?
C'est vrai qu'il y a une rupture hein, de personnage déjà. Donc tu fais bien de dissocier en fait l'avant acceptation de sa quête, hein, du scénario du film, et la façon dont il est présenté quand il rentre chez lui après sa scène d'exposition, donc celle dont je viens de parler.
Bah, on peut vraiment dire, il y a donc comme vous connaissez un film à 3 actes la plupart du temps. Et là, on peut vraiment dire que Nicolas Cage a 3 visages.
Ah oui, oui, tout à fait.
Et on va le voir changer tout au long du film. Et là, j'aimerais qu'on parle de son premier visage, donc celui qui est là, quand il était qu'un détective, qu'un privé, qui s'occupait de filatures, de problèmes maritaux et tout ça. Donc, si vous avez des choses à en dire, je vous écoute.
Ouais, c'est la première facette en fait de Nicolas Cage, c'est tout simplement un détective privé, mais c'est aussi un mari aimant de sa fille, de sa femme. C'est quelqu'un qui a sa vie, qui a ses problèmes. On va apprendre qu'il fume et qu'il le cache.
Ouais, c'est un petit filou là-dessus. Hein.
Il le cache très mal d'ailleurs. C'est bon, si tu veux cacher que tu fumes pas dans la même maison que tu vis avec ta femme à qui tu le caches. Mais bon.
Tu laisses pas un sandard avec des mégots quoi.
C'est ça. mais voilà, c'est quelqu'un d'assez calme, quelqu'un de tendre, qui s'occupe de sa fille, qui s'occupe de sa femme, qui aime les deux tout autant, et voilà, on va pas en apprendre beaucoup plus en fait.
Non, on comprend aussi que il est méthodique, il est très organisé, ça se sent en fait, il a une vraie structure, on le voit quand il prépare ses affaires pour repartir quelque part, tout est méticuleusement soigné, classé, etc. Donc il ne laisse pas grand chose au hasard, et on va comprendre que c'est un peu un champion dans sa catégorie pour ça. Et tu vois qu'il a une vie à peu près, au-delà de son métier, qui n'est pas un métier évident, il a une vie à peu près rangée en fait, et avec une vraie structure familiale, etc. Ça a l'air d'être solide.
Oui, totalement. C'est un mec pas lambda, mais c'est un mec standard qui a sa petite maison. Il lui manque juste le chien, quoi.
Oui.
Pour être l'américain.
Et puis c'est décrit plus tard, ça d'ailleurs.
Et on va avoir les prémices de son changement quand on va l'appeler. Il va avoir rendez-vous dans un espèce de. Dans un manoir.
Dans un manoir, hein.
D'une famille qui a l'air très puissante dans le comté. Il va les rencontrer. Il va rencontrer donc un avocat, l'avocat de la famille, et une personne très âgée qui se déplace en fauteuil roulant. Il va être invité à... Ils vont lui proposer un contrat. Ils vont lui donner une bande, donc un film en 8 mm, et lui demander si tout ce qui se passe sur cette bande est réel. Et moi, j'aimerais que l'un de vous deux nous explique ce qui se passe... Enfin, qu'est-ce qu'il y a sur cette...
La partie fun du film, en fait.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur cette bande, et surtout, la façon dont c'est filmé dans le film.
Oui, c'est très intéressant la façon dont c'est filmé, pour tout de suite rebondir ce que tu dis, parce que on va voir très peu d'images de cette bande, et les images qu'on va voir, ce seront régulièrement les mêmes quand il va la revisionner au cours du film, quand il va la re-regarder, parce qu'il va la numériser, etc. On comprend que c'est la torture d'une adolescente, elle est mineure encore, hein, je crois, avec des sévices sexuels, mais tout ce qui ne peut être montré à l'image va être montré sur le visage de Nicolas Cage, qui va très très mal vivre ce qu'il est en train de voir. Il se cache les yeux, il a des hauts de cœur même en regardant pour la première fois cette bande-là. Donc on comprend à quel point c'est intense, et je trouve que c'est très intéressant de n'avoir à aucun moment montré plus de violence que ce qui nous est proposé à l'écran. On voit juste que la jeune femme est menacée avec un couteau à un moment donné, on lui met 2-3 coups, et tout de suite la caméra se détourne du projecteur pour vraiment être fixée sur Nicolas Cage. Donc on comprend que c'est pas très ragoûtant ce qui est en train de se passer, et c'est intéressant de voir que, encore une fois, ce noyau familial dont on parlait tout à l'heure, c'est ce personnage 1, cette face-là de Nicolas Cage, est vraiment touché et mis à mal par ce qu'il est en train de regarder.
C'est exact, mon cher Olive.
Oui, parce que je pense aussi qu'il fait une projection.
Une projection, tout à fait, oui. Il projette
de sa fille qui est encore un nourrisson sur cette adolescente. Enfin, elle est sur la fin de l'adolescence. On en va entre 16 et 18 ans, je crois, dans le film, ils disent.
Oui, bah, elle était au lycée,
très jeune.
Elle était en second cycle, je crois. Oui. C'est ce qu'il dit.
Donc elle est encore très jeune, et après avoir vu cette bande, il accepte l'affaire, qui est de retrouver
cette jeune fille,
cette demoiselle, et savoir si oui ou non tout ça était réel ou pas.
Ouais, pour apporter juste un peu de contexte, encore une fois, la personne qui le missionne, c'est la veuve. C'est une veuve, son mari, comme tu avais dit, était quelqu'un de très puissant, chef d'entreprise, etc. Et à son décès, ils ont ouvert le coffre qui était dans son bureau, et dans ce coffre, il y avait entre autres cette bande 8 mm. Et en la visionnant, alors que c'était une personnalité qui était toujours, enfin apparemment, hein, c'est comme ça que le décrit sa femme, une personne droite, qui a une bonne image et une bonne réputation, là d'un seul coup, trouver ça dans son coffre, ça fait moyen moyen bof, quoi. Et du coup, la femme, moyen moyen bof, ouais. Et du coup, cette vieille dame, cette veuve, ne veut pas croire que son mari puisse impliquer là-dedans, et aimerait comprendre pourquoi il y a cette bande, et demande à Nicolas Cage de lui apporter la meilleure preuve possible, donc que la jeune fille qui est sur les images soit bel et bien encore vivante.
Et de rester discret.
Évidemment.
Et là, commence la recherche.
Oui.
Je trouve que cette phase du film, donc, qui va durer plus d'une heure, 1h20 je crois.
C'est tout l'acte 2 en fait. Tout l'acte 2 est là.
Et je trouve c'est l'acte 2 excessivement bien.
Non, c'est pas redondant, malgré le fait qu'on suive toujours la même mécanique, hein. Il va fouiner, enquêter, trouver un indice, et puis qu'il va l'emmener dans les endroits les plus crades.
Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il change d'environnement, il avance dans sa quête, on le voit un peu galérer, mais on le voit aussi qu'il est très très bon dans ce qu'il fait.
Oui, il change son attitude aussi, il sait s'adapter, c'est un caméléon, ouais. En fait, le gars, il s'adapte, son style vestimentaire, ses accents aussi vont changer, son nom évidemment, il va utiliser plein d'alias selon là où il va, pour se mélanger le plus possible, ou vraiment incarner le personnage qu'il est censé incarner à ce moment-là, selon les interlocuteurs à qui il va s'adresser. C'est plutôt bien fait.
Et on sent que c'est un gars qui est, quand il accepte un contrat, il va aller jusqu'au bout. Je sais pas si c'est une fierté personnelle ou quoi, mais il s'engage à aller jusqu'au bout, parce que ne serait-ce que la première phase de recherche est de retrouver qui est cette personne, enfin qui était la jeune fille, la jeune femme de la vidéo. Et il va commencer à aller faire des recherches dans les... je sais pas si c'était pas vraiment un commissariat, mais c'était...
Non, c'est un truc, un bureau administratif, ou qui recense, ouais, tous les portées disparues.
C'est ça, une bibliothèque de portées disparues.
C'est étonnant, yes. Mais c'est possible.
Où il y a une partie qui est informatisée, mais c'est l'informatique des années 90. Donc, c'est pas l'informatique de maintenant où tu marques les yeux bleus.
Pardon.
Ah, le morse intergalactique arrive.
Ouais, c'est ça.
Et et on se rend compte que l'informatique fait pas tout, donc il va falloir chercher les petits papiers à la main.
Fallait mettre les mains dans la merde encore à cette époque-là. Fallait y aller. Ouais. Si vous voulez vraiment mener à bien et ne pas abandonner quelque chose, fallait pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis. Je crois que Vivien voulait dire quelque chose aussi et qu'on l'a coupé.
Ah oui, pardon, Vivien.
Ouais, il y a 5 minutes à peu près. Non, c'était juste quand on parlait de la séquence, enfin de toute cette de tout ce moment de recherche, toute cette zone de recherche. On a un rythme qui est assez particulier parce que c'est un rythme qui va jamais nous lâcher. Et en fait, qui va faire en sorte qu'on ait des hauts, des bas, un peu des quelques petites longueurs pour nous garder quand même attentifs. Et à chaque fois qu'il y aura une petite longueur, à chaque fois, le personnage va trouver quelque chose et ça va nous relancer sur une nouvelle piste. Et nous, en tant que spectateurs, je trouve qu'on ressent bien ça dans le rythme.
Oui, je suis assez d'accord. Les moments de longueur, c'est surtout parce que là où j'ai trouvé ça long mais intéressant. C'est à chaque fois, il passe deux fois ou trois fois chez la mère de la portée disparue, celle qui est sur la piste de vidéo. Et c'est des moments très calmes parce que bah déjà, il est obligé d'adopter un ton où voilà, il utilise un alias encore une fois. Et il y va pour essayer de glaner des informations. Et on comprend que la mère de cette jeune fille, qui s'appelle Marie-Anne, n'a jamais accepté. Pour elle, sa fille n'est pas morte, elle est juste portée disparue. Et il va avoir beaucoup de mal aussi tout du long de l'intrigue. Soit est-ce qu'il va lui dire, quand il saura la vérité, est-ce qu'il va le lui dire ou pas à sa mère. C'est des moments qui sont plutôt calmes, mais on passe presque à la limite dans un format, c'est très dramatique en fait à ce moment-là. Il y a beaucoup d'intensité en termes de jeu, et ça se ressent aussi dans la réalisation d'ailleurs.
Je suis d'accord. Et il trouve Marie-Anne Matthews, disparue en 93, qui avait 16 ans. Donc il a réussi à mettre un nom sur le visage de cette jeune demoiselle. Donc oui, comme tu dis, il va rencontrer sa mère plusieurs fois. Elle, on sent qu'elle recherche presque du réconfort, parce que depuis que sa fille a disparu, sa vie est un enfer, hein, disons-le franchement.
Ah oui.
Et lui, vraiment, met vraiment une barrière entre... Dans toutes ses relations, il va mettre une barrière.
Ouais, ça se sent quand il vient la voir pour la deuxième fois. Elle est en train de préparer à manger. Tu sens qu'elle s'est apprêtée un petit peu. Tu vois, elle porte une jupe au-dessus du genou. Elle est plus apprêtée que la première fois où il la prend à défaut. En fait, la première fois qu'il vient la visiter, elle est limite en robe de chambre. Voilà, elle n'est pas apprêtée du tout. Et quand il revient la voir, c'était prévu qu'il revienne la voir. Elle est apprêtée. Elle est en train de faire à manger. Elle insiste un peu pour est-ce que vous voulez pas rester manger. Tu sens qu'elle a envie déjà d'une présence peut-être masculine, tout simplement, parce que c'est un désert affectif hein, dans sa vie. Ça, c'est pas dit, mais c'est clairement montré par les intentions de réalisation. Et c'est intéressant de voir là, pour mettre en avant ce que tu disais, que oui, il met une barrière. Et on a bien compris que elle aurait bien aimé qu'il reste un peu pour dîner, etc. Et que lui, non, va refuser parce qu'il est pas là pour ça, de fait.
Exactement. Et il retrouve le
père du petit ami.
Le petit ami, l'ex-petit ami, le camembert.
Le journal intime de la gamine dans les chiottes.
C'était pas une personne, c'était un objet. Mince, c'était mon deuxième choix.
Tu l'avais sur le bout de la langue, je le sais.
Ouais, ouais.
Et il trouve ce journal intime, il le cache à sa mère.
Alors il le trouve chez elle.
La sienne.
Il le trouve chez elle, chez la maman de Marianne. Et il le trouve dans les chiottes qui étaient juste apposées à la chambre de Marianne.
Et il lui dit pas, parce que bon. Il vaut mieux pas qu'elle sache tout. Hein. Il trouve là-dessus, comme vous l'avez dit, les coordonnées du père du petit copain dont elle parlait. Il va le voir en prison parce qu'il est en taule. Et on parle de Daryl.
C'est ça. Qui a un tout petit rôle, hein, d'ailleurs. C'est
oui,
un tout petit
rôle. Il lave le sol, quoi.
C'est ça.
L'info qu'il va réussir à en tirer, c'est qu'elle est partie pour Hollywood.
Pour devenir une grande actrice.
Ouais. Alors ça, quand un film commence par il faut que j'aille à Hollywood pour devenir une grande, ça finit jamais bien.
Non, il y a qu'à voir Scream 3, hein, ça s'est pas bien terminé pour la mère de Neve Campbell.
Enfin, dès que quelque chose touche à Neve Campbell, ça finit jamais bien non plus.
C'est pas faux.
Et là, direction Hollywood. Et comme on en avait parlé, je crois, dans Attraper l'Espadon, on est à Hollywood. les teintes changent.
Donc il fait orange.
Et on met ce petit filtre orange pour bien faire comprendre que c'est
California.
Bon.
Californie.
Et alors moi, il y a des trucs. Moi, je trouve qu'il gère très bien la nuit. Il y a beaucoup de scènes de nuit qui se passent dans différents états, etc. C'est globalement très bien fait. Il n'y a pas spécialement de nuit bleue, surtout la dernière nuit où il retrouve des gens. Il n'y a pas trop de nuit bleue, mais à un moment donné, Nicolas Cage rentre chez lui entre deux et il va voir sa fille. Il la prend fort dans ses bras et putain, tu sens que ça a été tourné en studio. Allez, t'as une fenêtre avec certainement un décor de studio derrière et donc juste un arbre, une connerie comme ça. Putain, c'est bleu, mais bleu nucléaire le truc. Mince, ils étaient bien arrivés jusqu'ici, zut.
C'est dommage. Et là, on va faire la rencontre du deuxième personnage, enfin le premier rôle secondaire, on va dire, qui est Max California. Interprété par Joaquin Phoenix.
Le nom est génial.
Bah, il aurait été, ouais, ça aurait été moins trop,
c'est
moins
un
cool
surnom,
dans.
À la base,
mais... Il aurait été dans le Kentucky, ça aurait été Mac Kentucky.
Ouais, KFC.
C'est,
quoi.
Il y a
ça
moins
pas
de.
Été Max déjà, ouais, ça aurait été autre chose. Mais...
Ouais, ça aurait été Médor. Et non, c'est le nom du chien qui donne après. Parlons de ce Max.
Bah, ça va devenir son indique très rapidement en fait.
Oui, mais moi j'aimerais qu'on en parle, enfin pas de sa, enfin. Autre que sa fonction, c'est sa représentation dont j'aimerais qu'on parle.
Imaginez-vous en Floride ou en Californie.
Ok, attends, je ferme les yeux et je m'imagine.
Vas-y, imagine-toi en Floride ou Californie. Il fait orange, il fait chaud. Tu entres dans un magasin de revues pornographiques et de sex shop, tout ça.
Je vais pas trop là-dedans, mais ok, vas-y, pour l'imagination.
Vas-y.
Moi, je vois très bien. Vas-y, c'est bon, je suis dedans, je vois. J'ai passé le rideau.
Et là, à la caisse. Le vendeur, c'est petit gars cheveux bleus avec du gel, crop top, qui lit des revues porno.
C'est
là,
commode.
Tu le vois ?
C'est pas très très commode. Hein.
Ouais, ou c'est Joker.
C'est pas très commode. Non, c'est normal, c'est une caisse, donc c'est Joker. Ah, c'est marrant, c'est commode Joker, parce que du coup, vous avez préparé ça tous les deux avant de.
On ne prépare jamais rien, non.
À part la blague sur Dana, parce que bon, je me suis dit, il fallait quand même la travailler.
Ah, elle était bien celle-là, la tribu de Dana, c'est vrai.
Wow. Imaginez. Joaquin Phoenix, je sais pas trop comment.
Joaquin.
Imaginez Joaquin Phoenix, les cheveux rasés, mais avec du coup une coupe en pique, avec du gel, un peu teinture bleue.
Ouais, c'est Joaquin Phoenix en cosplay de Sonic, du coup.
Ouais, c'est ça. Crop top au corps, genre un truc hyper moulant. Et bah voilà, c'est tout. Bah vous avez, Joaquin Phoenix dans le truc, je sais pas comment vous le décrire mieux, c'est un archétype du vendeur de revues de pornographique un peu efféminé.
C'est ça, il a des manières en fait. Il a pas mal, il est assez maniéré dans son attitude, il est très désinvolte en fait, le personnage est très très désinvolte, complètement blasé de là où il est et de ce qu'il voit ou de ce qu'il fréquente au quotidien, et il va permettre à Nicolas Cage d'avancer un peu. Petit peu plus, voire même à un moment donné beaucoup plus, puisqu'il va l'emmener dans des endroits où on peut trouver, louer, acheter des vidéos qu'on ne peut même pas trouver dans des sex shops, on va dire, classiques, où on n'aura pas de trucs interdits par la loi.
Des trucs un peu plus underground.
Oui, bon, alors c'est ça se résume à du BDSM un peu extrême et ce genre de choses, mais voilà, c'est du film. C'est de l'amateur.
Ça me fait beaucoup penser. Alors attendez si je me trompe, ça me fait beaucoup penser à un personnage dans Stay Alive, je crois.
Je crois que t'allais dire Jackie et Michel, mais non, pas du tout.
Non, un personnage dans Stay Alive, le vendeur de
jeux
vidéo dans le film Stay Alive. Mmh. Ouais.
Ouais, oui, oui, mais en moins, enfin, le cliché, je trouve que le cliché, enfin, je suis déjà rentré dans des sex shops, ce genre de personne n'existe pas, hein. J'en ai jamais vu, ça n'existe pas. Et des vendeurs de jeux vidéo comme il y a dans Staying Alive, le lien de la vidéo de Karim Debache en description en haut à droite, Kevin.
Là.
Voilà, bravo, ouais. bravo du premier coup.
Premier coup.
Du premier
sans
coup.
Hésitation en plus.
Et ouais, je suis comme ça.
Et
moi.
C'est pareil, des vendeurs comme ça de jeux vidéo à ce point cliché et dégradant pour et le métier et toute la base un peu nerd, geek, etc. Ça n'existe pas dans la vraie vie.
La lecture du personnage de Joaquin Phoenix, moi je l'ai vraiment comme. Ce mec, à la base, c'est un rocker. Il veut percer dans la musique. Bon, il n'y arrive pas parce qu'à Hollywood, on ne perce pas tout ça. Il est dans un rôle ultra poussé pour faire plaisir sûrement à une partie de la clientèle. Parce que, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est le mec, il a vu des trucs parce qu'il va nous les montrer juste après. Mais vraiment, il est blasé de son personnage, mais il joue un personnage.
Oui, tout à fait. Il le dit d'ailleurs. Il le dit. Oui. Il n'est pas vraiment comme ça, mais si ça peut servir son but premier qui est de devenir rocker, par exemple, il le fera. L'important, enfin, c'est alimentaire presque. Et puis, quand t'as touché à ce genre de média un peu, c'est très humain. Ce qu'avait dit Vivien dans une vidéo une fois, c'est dans ça, je crois que t'en parlais, Vivien. C'est très très humain de pas vouloir regarder ce genre de contenu, mais finalement. Ouais, tu vas regarder d'un œil de loin, comme ça, juste pour te dire. Bon,
ouais, on est toujours attiré par ça.
Oui.
Et donc là, il va avoir une petite discussion avec Max. Donc, pour savoir s'il peut avoir accès à des trucs un peu plus illégaux. Enfin, un peu. Pas dans le. Comment on va dire ça ? Pas dans le marché standard. Et là, on va voir un premier truc. Qui va faire tourner le film d'une autre façon, c'est qu'on voit quelqu'un qui observe Nicolas Cage et Max en train de discuter.
C'est ça, on va être introduit pour la première fois un personnage spectateur.
À la nuque d'un personnage qui regarde.
Ouais, mais et ça, je trouve ça ultra dommage.
Ça servait pas à grand chose en fait, je suis complètement
d'accord.
Pour moi,
ça casse un peu le truc, ça veut dire que Cage fait son enquête. Mais qu'il soit aussitôt, enfin pas aussitôt, mais dans son enquête, qu'il soit déjà pourchassé par quelqu'un, c'est que tu sens que les ficelles... Enfin, voilà, il y a une taupe quelque part, et tu sais direct qui c'est, quoi. C'est t'as pas le truc de dire... Parce qu'à ce moment-là, il a même pas commencé à être... Enfin, il n'a pas été dans les marchés noirs encore.
Non, mais il a été à Los Angeles.
Donc, il n'a pas posé de questions encore très... Enfin, il n'a pas encore fait de recherche intensive sur le média. Et je trouve ça dommage que ça arrive déjà. Et on va voir cette nuque trois fois, je crois.
Ouais, je crois que c'est trois fois que ça apparaît. Et en plus, quand tu maîtrises un peu les codes du cinéma, vu que le film, il est bon, assez conventionnel dans son déroulé, tu sais forcément que c'est quelqu'un que tu as déjà vu. On ne va pas t'introduire encore un autre personnage qui le suit de loin, qu'on n'aurait pas pu voir depuis le début du film.
Et en vrai, en tout et pour tout, à ce moment du film, il a eu des interactions avec cinq personnes. Sa femme, la vieille dame qui lui donne son contrat, l'avocat de la famille, la mère de la gamine disparue et Max.
Et une seule de ces personnes porte des lunettes.
Ben oui, et vu qu'on voit les branches de lunettes, on sait donc...
Que c'est la vieille grand-mère, exactement.
Et qui se déplace en fauteuil roulant, donc difficile de faire une filature, mais toujours la première.
On la voit marcher.
Oui, on la voit marcher.
On la voit marcher, quoi.
Enfin, trois pas. Trois pas, mais voilà. Mais, et là, je trouve ça dommage parce que le soufflet qui prenait bien... Enfin, pour ma part, j'étais vraiment dedans. Enfin, je suivais l'enquête... Et le fait qu'on voit ça, je me dis, oh non.
Bah, on tombe un peu dans le côté, lui a un objectif, etc. Mais tu sais, il y a encore un groupuscule derrière qui potentiellement pourrait contrôler tout ça encore un peu plus de loin. On va éviter cet écueil-là quand même. Ça va rester dans un... Là, il n'y a pas de groupuscule. Mais ça fait cliché, en fait. Et du coup, ça casse un peu ce qui avait été mis en place jusqu'ici dans le film, je trouve.
Exactement. Alors... Pour continuer un peu, on va faire pour une fois n'est pas coutume, même si souvent on va faire vraiment le déroulé parce que je pense que c'est pour ce film on peut pas non plus complètement l'éclater.
Non, on peut pas vraiment l'éclater. Donc, ouais, c'est vrai. On peut.
Il va avec Max aller dans des marchés noirs. Alors c'est des trucs très comment dire, très caricaturaux. C'est des trucs que on te parle, on te dit, hey, t'imagines un marché noir où il y a des trucs un peu illégaux sur du porn et tout. Et dans ta tête, ça va être, ouais, genre vraiment des trucs sales dans des vieux immeubles ou dans des caves. Et t'as ça.
Et on a exactement ça en fait. Et d'un seul coup, dès qu'il rentre dans ce genre de marché, donc complètement de marché noir, hein, vraiment, il va en visiter quelques-uns qui vont chacun avoir leurs caractéristiques, mais globalement ça va être la même chose. Ça va aller à chaque fois de mal en pire. Hein. Le premier te met déjà un peu mal à l'aise parce que ben, bon, personne n'a une gueule de porte-bonheur là-dedans. Et plus il va aller dans des marchés noirs comme ça, plus on va descendre dans les bas-fonds des déviances sexuelles. Et ouais. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'on a ces scènes dans un marché noir, peu importe le marché noir hein, qui est montré à l'écran, il y a un truc qui fait très Fincher, qu'on n'a pas trop dans le film avant, mais c'est les teintes adoptées.
Il
la...
fait vert.
Il fait vert. Et ça suinte un peu. Ça ressemble un peu à la maison abandonnée de où vit Tyler Durden dans Fight Club. Ouais. Il y a le Fincher de Seven, le Fincher de Fight Club, le Fincher de Panic Room aussi. On retrouve ce côté un peu cradingue. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Fincher dans ces trois scènes-là, dans ces trois marchés-là, en fait.
Ouais, bah c'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Très.
Même le message du film qui est assez dur, même s'il est beaucoup plus ancré au réel, on va dire que Seven, par exemple, c'est un message que tu peux reconnaître justement dans les films de Fincher.
8 mm, pour moi, c'est un sous-Seven. C'est-à-dire qu'il emprunte beaucoup à Seven, c'est une narration d'une enquête policière de très loin. Ça reste une enquête, en fait. Mais ça reste moins bien pour moi qu'un Seven. Mais voilà, il y a plein de trucs qui vont te rappeler un peu cette ambiance qui est... cette espèce de pathos, en fait, que tu retrouves dans toute la réale de Fincher. C'est intéressant. J'ai bien aimé, en tout cas, ces passages-là. Et puis bon, après, toutes les personnes que tu rencontres sont vraiment des caricatures de déviants, quoi.
Ouais. Mais c'est un peu normal, parce que là, on compare à Seven, on a comparé vite fait l'imagerie à l'imagerie dans Fight Club, mais tous ces films peuvent, enfin surtout Seven en l'occurrence, sont considérés, donc c'est des films noirs, hein, on a déjà expliqué ça, et ce film-là, 8 mm, en fait partie. Et les films noirs dans les années 90, jusqu'au début des années 2000, c'était ça, c'était des trucs un peu qui suintaient, qui se passaient aux États-Unis, qui était sale, et j'ai envie de dire c'était la norme, en fait.
Oui, c'était, il est très codifié.
Et il fallait emmener, en fait, le spectateur dans des terrains un peu nouveaux, ou des choses comme le snuff movie. C'est une tendance qui peu de gens, j'en parle à mes parents de snuff movie, je pense qu'ils ne savent même pas ce que c'est, tu vois. Donc on allait sur un terrain qui parlait peut-être à quelques personnes, et c'était intéressant d'aller gratter un peu. Et dans tous les films de ce type-là, de ce créneau-là, 90 jusqu'au début 2000, parlait de sujets qui pouvaient forcément être déviants, pas forcément sexuellement, mais globalement il y avait énormément de déviants, en fait, et Seven en est une très belle illustration du sociopathe, psychopathe qui est complètement déréglé socialement et donc déviant par nature.
Je suis d'accord, allez voir donc Seven. On a déjà enregistré un épisode dessus.
Voilà, donc l'affiche sera juste l'affiche sera
là.
Non, ouais, non, de... bah non, bah,
si,
bah non,
bah, si,
bah,
si, bah
non.
Si, si, bah si, je l'ai mis au même endroit que tout à l'heure. Donc, quand même.
Oui, mais là, on a inversé l'image. On a inversé
Ah, bah après noir. Aussi, si vous faites des blagues, et les gars.
Si on inverse le fond noir du son, et ça change. Hein, faut que tu le dises dans l'oreillette droite.
Donc, en tout cas, voilà, retrouvez-le en fiche, si j'y pense.
Oui, c'est déjà pas mal. Ou sinon, vous tapez Felf 7 et vous le trouverez. Hein.
Vous pouvez retrouver dans la playlist Felf saison 1 ou Felf l'intégrale. Vous savez ce qui me manque un peu quand ils descendent dans les marchés noirs,
dans les bas-fonds,
ils en trouvent un que c'est un peu mexicain, colombien, enfin tu sais, c'est un peu
ouais,
hispanique.
Et les mecs s'énervent quand l'autre il dit vous avez des snuffs, il fait oh cabron de puta de madre, una cerveza por favor.
Eh ben il manquait plus qu'un dandy Trevo, en fait, il manquait que ça pour que vraiment on ait l'intégralité de l'archétype un peu cliché, il manquait que ça.
Ouais, et puis dans le truc BDSM j'aurais beaucoup aimé comment il s'appelle, Ron Perlman.
Ouais, ah oui, oui.
Je pense que ça aurait été excellentissime, mais c'est pareil, il y a donc il va dans le truc un peu comme tu dis latino, il va dans un autre truc ultra BDSM. Ou pour bien te faire comprendre, il y a des lanières en cuir partout, même sur les murs, hein, si tu n'avais pas compris le concept.
Alors là, j'avoue, ça m'a un petit peu énervé. parce que, je ne vais pas faire état de l'étalage de ma vie, mais j'ai eu 20 ans. Et le BDSM, c'est quelque chose que je connais un peu. Mais évidemment, il faut expliquer aux gens. C'est limpide pour le spectateur, du cuir, des lanières, des machins. Tu comprends que oui, d'accord, tu vois les déviants. Je comprends pourquoi c'est fait là. C'est utilisé, mais putain, c'est tellement pas que ça.
Oui, mais c'est ultra caricatural.
Oui, tout
exprès.
À fait.
Non, mais... On s'en fout de... Enfin, on pourrait faire la même remarque sur Fifty Shades of Grey.
Ah, parce que voilà, pas de ce film.
C'est, parce que ta gueule. Et
très, très bien. J'aime ce moment. Le tirage. J'aime ce qui se passe.
Bon, on craque.
Ça y est,
normal,
non, mais
ce film
trop de tension.
A trop de pression sur nous, je veux dire. Est-ce que... Est-ce que le podcast renaîtrait de ses cendres tel un phénix?
Joachim.
Je suis pas vraiment fan de celle-là, mais bon, elle est sortie toute seule. Des fois, mon cerveau ne réfléchit pas assez vite que ma bouche, qui ne réfléchit pas en fait, qui déblatère des conneries. Alors, pour revenir au truc, c'est ultra...
Ton cerveau réfléchit pas assez vite que ta bouche.
Donc...
C'est même pas français.
Bon, recadrons-nous dans l'écran du 8 mm. Et là, moi, il y a un personnage qu'on voit l'espace de 2 secondes. Quand il va dans le troisième marché noir, celui où vraiment t'as l'impression que c'est une cave, où il a plu.
Oui.
Parce qu'il y a des cassettes. Et là, t'as un mec sur une estrade. Il est assis avec son. T'as l'impression qu'il joue aux échecs tout seul. Et l'autre, il arrive, il y a deux
aux
cassettes.
Échecs avec des cartes, oui.
Et, bah oui, c'est pareil. C'est un nouveau jeu, ok. Tu connais pas tous les jeux du monde, ok. Et là, il arrive, il y a deux cassettes et l'autre limite l'envoie chier. Mais vraiment, on pouvait faire plus caricatural que ça.
Bah oui, regarde, ils t'ont mis un petit pédophile dans le coin avec son grand manteau et ses lunettes rondes.
Bah mais ça, est-ce que c'est vraiment une caricature? Et là, où j'en parlais au début de l'épisode où on voit l'évolution de la psyché du personnage de Nicolas, il va y avoir un truc qui... Je me suis dit, ok, donc ouais, il a vraiment vrillé, il est ultra focus sur sa mission, c'est qu'il va être dans sa... C'est quand ils vont être à New York, parce que oui, ils partent à New York parce qu'ils vont rencontrer, mais on en parlera juste après, parce que voilà. Il va regarder un écran, donc avec des films plus ou moins hardcore, on va dire, mais très très proche de l'écran. Le mec, limite, il a le visage collé au truc et il fait « Ok, je vais vraiment regarder tous les détails. »
Se concentrer sur l'écran, ça lui a permis plutôt dans le film de repérer un tierce personnage dans le snuff movie.
Oui, mais ce qui est très drôle aussi, c'est que quand on voit la première fois où il voit donc, la vidéo, il est très mal, ça se voit à son visage, il fait du Nicolas Cage, quoi. Donc, toutes ses expressions sont poussées.
Surjouées, oui.
Et des fois... Il est, au bout d'un moment, on va le voir assis dans ce truc avec en fond le film, mais ça va.
Ah, il est posé, pépouze, bière, cigarette. Ah mince, j'ai oublié d'appeler ma femme. Attends,
en slip.
Attends,
en slip.
Je rembobine parce que c'est fou quand même. Tout ça, ça rentre. Bah mince alors.
Et voilà, mais oui, et j'aimerais beaucoup, et vu que c'est moi qui commande, on va le faire, qu'on parle de Velvet, qui est un réalisateur de films BDSM. Olivier, tu confirmes ?
Non, je confirme pas, mais oui, pour le film, il fait des films BDSM, oui, tout à fait.
D'accord, c'est bon. Avec un acteur qui a un tatouage sur la main, qui n'est autre que...
La machine !
Qui est donc la personne qui a tué la gamine.
Qui est trop mignon, en vrai, il ressemble à un doudou.
À force de regarder la vidéo, enfin la vidéo, la bande 8 mm, et de glaner des indices, il s'est rendu compte que... Un des intervenants, qui est un des tueurs hein, du coup, avait un pentagramme gravé, tatoué sur la main. Et à force de bouffer de la cassette, parce que le DVD n'existait pas encore, mes bons amis, ils se sont rendu compte que, clac, il y avait aussi. Il retrouve The Machine qui a un tatouage sur la main, le tatouage identique. C'est en arrivant chez Velvet ou il l'avait retrouvé avant déjà, je me souviens plus.
Il l'a retrouvé avant parce que c'est en voyant une vidéo de Velvet,
tout à fait,
il voit le... Enfin, la même gueule, le même masque en cuir et ce tatouage. Et c'est là où il décide de rencontrer Velvet.
Tout à l'heure, tu parlais de bouffer de la cassette. Alors, faut faire attention, faut bien le faire cuire et enlever tous les os avant.
Évidemment, non, ça va de soi. Alors, Velvet, faut savoir qu'il est interprété par Peter Stormare. Et c'est un comédien dont on a déjà parlé et que vous connaissez puisqu'il a joué dans Prison Break. C'était le...
J'ai pas le temps.
Voilà.
Mon esprit est
un petit peu le mafieux de la prison. Je crois qu'il fait que la saison 1 parce qu'il meurt, il me semble.
Il se fait buter par les flics quand ils sont sortis. Et il joue aussi dans American God,
qui est une
série. Dans un film dont on a déjà parlé, il joue dans Constantine et il joue
le diable.
Constantine.
Le diable, quoi, tout simplement. Comment il s'appelle ? Satan.
Donc, il joue le diable. Comment s'appelle-t-il ? Satan, a.k.a. Lucifer. Vraiment, t'as hésité là-dessus ?
Ouais, et parce qu'il a d'autres noms.
Oui.
Il a plein de noms.
Méphistophélès.
L'étoile du matin, tout ça.
Cet acteur, on est d'accord, il pète quand même assez le charisme.
Oui, il a une gueule. Vraiment, c'est un comédien à gueule qui n'a jamais eu de premier rôle, vraiment. Je crois que c'est un peu un non. second couteau.
Mais il pète le charisme avec un peignoir. Mais ça, c'est beau.
Et une pantstache d'anthologie.
Ah, mais lui, pour le coup, il l'a toujours eu. Ça et sa coupe de. Enfin, ses cheveux mi-longs alors qu'il a une calvitie, c'est magique. Quoi. Ce personnage, moi, je l'adore. Enfin, il dégage un truc qui fait que. Tu le fais toujours jouer un enculé.
Globalement. Donc, oui.
globalement, c'est tu vas pas le voir quand t'as un problème et c'est pas lui qui va te résoudre les problèmes. Mais il rencontre donc Dino Velvet.
Eh ben moi je vais t'en parler de Dino Velvet et je vais t'en parler.
Ouais, parle-en moi Olivier, vas-y, vas-y, ok.
Défends-toi.
Ouais, parle.
Sur tes grands chevaux, prouve que tu es fort, vas-y, personne te retiendra.
Ouais. Donc Olivier.
Oui, alors on va parler du personnage fonction psychotique caricatural à l'extrême, donc Dino Velvet.
Oh, je trouve que tu es un peu dans le vrai.
Je suis encore en dessous. Je veux dire, la première fois qu'il reçoit Nicolas Cage et Max, c'est dans son chez lui un peu avec une.
C'est dans du verre.
Avec un canapé en forme de. Dans son bureau, c'est ça. Canapé zébré, des photos dégueulasses partout. C'est ça. Encore une fois, ça suinte, mais ça suinte pas à la Fincher. Là. Ça suinte à la surexposition. Il y a trop de lumière dans son bureau.
Non, mais c'est. Oui, puis c'est vraiment. Bon, tu vois, ce personnage que tu vas rencontrer, il a un problème.
Oui, clairement.
Parce que regarde là, tu vas voir. Bah oui, on a compris, merci.
Il y a quand même des bébés en plastique et des têtes de bébés en plastique. Enfin, sur les murs, il y a des bébés en plastique qui ont leurs têtes dans un sac poubelle, enfin dans des sacs plastiques. Et sinon, sur une étagère, il y a quand même une tête de mannequin, de
oui,
bébé mannequin.
Oui, mais c'est des accessoires, oui, c'est pour des effets spéciaux.
Oui, puis il a un crâne humain sur son bureau, cet enculé.
Il se donne rendez-vous dans un hangar, là où il tourne ses films un petit peu extrêmes du futur BDSM++.
Le futur.
Et non, je ne lancerai pas le générique de vous savez quoi. Et là, Nicolas Cage va se rendre compte d'à quel point ce personnage n'est pas fréquentable, puisqu'il tire dans son studio sur une cible qui est donc posée sur une énorme croix avec une arbalète, parce que pourquoi pas, fallait bien que lui...
J'aimerais te corriger, c'est important quand même pour le, on va dire, c'est pour le symbole de ce que ça représente. Ce n'est pas une cible qui est posée sur une croix, c'est une croix qui est posée sur une cible. Et ça peut ne vouloir rien dire, et je peux faire de la surinterprétation, mais ça veut dire quelque chose. C'est un motif, c'est un symbole. Avoir posé une croix, la croix chrétienne sur une cible, et c'est pas pareil qu'une cible simplement sur une croix. Bref.
Pour expliquer aux gens, plutôt que la cible soit accrochée sur cette énorme croix, donc que la cible soit au premier cran et plan et la croix derrière, là c'est l'inverse. On a d'abord la croix et la cible est attachée, mais dans le dos de la croix. Du coup, on voit la croix d'abord et la cible accrochée derrière. Ce qui rend déjà beaucoup plus difficile de tirer au centre, puisqu'on ne peut pas. En plus de ça, pour revenir au film, Nicolas Cage va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, Dino Velvet. Il est accompagné d'un mec qui se fait appeler
Le Machine.
Un tatouage sur la main. Un masque en vinyle cuir dégueulasse de c'est la crampe quoi dans Pulp Fiction hein, globalement voilà. Et on va avoir le droit à la surenchère de violence du coup hein, ça va être menace, il va se faire menotter, désarmé et on va le menacer bien bien comme il faut. Non, pas encore.
Ah. Et donc oui, il y a aussi le producteur de porno qu'on a envie d'apprécier. Non, je déconne.
Voilà, on a la Dream Team en fait. On a la Dream Team parfaite.
On a le trio magique. La Triforce, Zelda, moi Ganondorf aussi. Et Link.
Ah, et c'est dur ce que tu fais pour la. pour
oui, parce que c'est pas du tout ça. Mais là, va-t-on rencontrer un personnage qu'on aurait peut-être déjà vu avant, au moins sa nuque. Va-t-on rencontrer un personnage peut-être qui a un lien avec Nicolas Cage.
Il y avait un commanditaire en effet.
Quoi? Tu veux me dire qu'il y avait une taupe? Je parie 20 balles sur l'avocat.
Ouais, ben voilà, ouais pareil, je mets 10 balles sur l'avocat. Dis bien.
Je sais pas, moi je préfère les pommes.
Il me fatigue.
Ok, donc... oh la vache.
Et c'était bien l'avocat. C'était bien l'avocat, tout à fait, c'était bien l'avocat. Donc,
c'était bien l'avocat.
L'avocat de la veuve du début, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure.
Oui, le mec à lunettes, quoi.
Et c'est chaud. Parce qu'il a une énorme moustache lui aussi, c'est incroyable. J'avais pas fait attention au premier visionnage.
Ah bah les années 90. Hein.
Film.
Il a une énorme moustache.
Les années 90. Et là, Nicolas Cage va jouer du bagou, parce qu'il est quand même attaché sans armes avec à peu près trois malades et un avocat.
Oui, donc Dino Velvet qui lui dit si jamais tu fais pas ce qu'on va te demander de faire, maintenant j'ai une photo de ta femme et de ta fille. Et il bouffe la photo de sa femme et de sa fille avant de la recracher. Parce que pourquoi pas.
Ouais, et puis tu sais, limite, et puis après il la lèche, il la colle contre le mur. Oui, ben là, à ce niveau-là, on l'avait compris. Hein.
D'ailleurs, retenez bien qu'il la lèche et qu'il la colle au mur, parce que il y a un petit détail après. Genre, quand Nicolas va s'enfuir, il va arracher
la photo. Hein. Donc, c'était de la bave vénère, quand même. On sent qu'à mon avis, il n'y a pas que de la bave. Toi, il ne fait pas que filmer des films, Dino.
Ah non.
Il doit en bouffer de la bave, je te le dis.
Et un truc qui se passe, c'est que Max California devait rentrer... Enfin, Nicolas lui avait dit, casse-toi, rentre chez toi, on retravaillera ensemble. Sauf que moi, ils ne retravailleront pas ensemble parce que il est attaché à la croix et il se fait égorger. Chut par la machine. Parce qu'il fallait le buter à un moment donné, voilà quoi. Il a fait assez de temps de pellicule, c'est bon, on passe à autre chose.
Bon, et du coup, ce qu'on lui demande hein, simplement à Nicolas Cage, c'est de rendre le film pour faire disparaître oui. Le film, hein, tout simplement. Et après, ils lui disent gentiment, et après, tout ira bien, t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Voilà. Donc, Nicolas explique que l'avocat a empoché $1 million qui n'a pas été redistribué équitablement. Mais. Il y a deux trucs dans ce film qui me font que... Ok, c'est la justification du pourquoi le mec ultra riche a commandé cette vidéo.
Je peux en parler.
Vivien, tu peux en parler.
Yes. Je trouve que c'est une de mes répliques de film préférées.
Bah, explique en la gros, réplique. Hein, parce
oui,
que...
non, en gros, Nicolas Cage, menacé d'une arme, en train de récupérer la vidéo dans son coffre, demande à Longdale, l'avocat, pourquoi il a le grand monsieur qui était super riche voulait cette vidéo. Genre, qu'est-ce que ça lui a apporté genre, il part dans un monologue, tout ça, il s'énerve et tout ça. Et ensuite, l'avocat, il répond juste parce qu'il pouvait. Et je trouve ça incroyable. Et je m'en fous, ça peut paraître ridicule tout ça pour certaines personnes. Je trouve ce parce qu'il le pouvait. J'ai du mal à parler, je suis malade parce qu'il le pouvait. Je trouve ça super classe parce que ça définit exactement la pensée que tu peux avoir de cet homme riche. Ça, il résume exactement la pensée que tu peux avoir en tant que riche. Tu le peux, donc tu le fais.
Et on n'aura pas d'autre justification que ça. Moi, j'aime bien cette justification, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'en apprendre énormément plus. Et d'ailleurs, lui-même n'a pas participé au film, le décédé, en fait, le propriétaire du film, enfin, le propriétaire du film, globalement, le riche. Si juste, il pouvait avoir ce genre de médias, bah, il en a consommé.
Je trouve ça très intéressant, socialement parlant.
Oui, et t'as donc cette première justification, et là, une seconde qui arrivera plus tard, et qui est dans la même veine. Là, on va aller un peu plus vite, parce qu'on va rentrer dans l'acte 3. Dino meurt, l'avocat meurt, Max meurt, ça commence à faire beaucoup de morts.
Il reste plus que le.
Et The Machine. Et
oui, The Machine a mal au ventre.
Et le producteur, ouais, il reste le producteur de.
Et The Machine a mal au ventre, et c'est pas parce qu'il a envie de faire caca.
Non, c'est parce qu'il s'est pris pris un coup de surin.
Donc Cage s'enfuit, il appelle sa femme pour lui dire en gros. Casse-toi.
Va te mettre à l'abri.
Voilà, parce que bon, il sait qu'ils connaissent leur visage. Oui, aussi. Elle s'enfuit, il y a embrouille avec. Avec sa femme, il appelle celle qui lui avait donné le contrat et lui annonce que tout était réel. Elle décide de mettre fin à ses jours parce que je pense que la culpabilité était trop grande.
C'est ça, elle pouvait pas vivre avec ça, sachant ça de son mari en fait. Puis bon, elle avait à peu près passé la moitié.
Plus proche de la fin que du début. Mais donc Cage récupère une somme d'argent, tout simplement le contrat parce qu'il l'a mené à terme. Et là, acte 3, Cage. C'est plus le même homme.
Non, on sent qu'il a vraiment été traumatisé. Il y a un truc qui s'est brisé en lui.
Il a décidé de punir les méchants. Il a décidé de devenir le Ghost Rider.
Il met son meilleur blouson en cuir noir, ses lunettes de soleil noir, alors qu'il fait nuit pour conduire. C'est moins
et
pratique.
Il s'enflamme. Ah non, c'est un autre film. Pardon, excusez-nous. On s'est trop avancé. Et là, il va choper le producteur. C'est le seul dont il connaît l'identité.
L'adresse, etc.
Il le chope. Et fun fact, il l'emmène où ?
Là où a été tué Marianne.
Fun fact, j'aime bien que tu dises fun fact sur ça, c'est marrant.
Oui, faut bien qu'on apporte un peu de joie dans ce film.
On le fait.
Et il décide de lui éclater littéralement la gueule en lui demandant pourquoi ils ont tué une gamine.
Et pourquoi il a regardé aussi?
C'est ça, parce que lui, le producteur est que spectateur. Oui. Lui, il a fourni la c'est gamine en lui promettant monts et merveilles. Et c'est The Machine hein, qui vraiment a la violée et tuée. Enfin, tuée et violée dans cet ordre-là.
Oui, bah, il explique que c'est pour la thune.
Pour le voyeurisme. Pour
et la thune il et explique en plus que ça lui a donné envie de vomir. C'était vraiment pas quelque chose de très sympa à vivre. Mais il l'a fait, donc dans sa petite checklist, ça va.
C'est intéressant de voir aussi les dilemmes moraux que va devoir gérer Nicolas Cage à ce moment-là, parce que le producteur, il l'emmène sur les lieux du meurtre de Marianne, il le ligote, il va pour le tuer, il le menace de son arme, et le producteur a tout un laïus sur « mais vas-y, tue-moi, blablabla, avec ton arme qui enregistrera ton nom ».
En plus,
coup,
avec
il va avoir des problèmes, hein,
là où il lèche le canon et tout... Je trouve ça un poil too much quand même.
C'est oui, voilà. Après, il va, voilà, le producteur va dans l'extrême. Ça devient une caricature parce que il commence à titiller avec le bout de sa langue le canon de Nicolas Cage. Bref, Nicolas Cage sort de la maison abandonnée, hein, simplement où il a emmené le producteur, et il l'a pas tué encore. Et il y arrive pas. Et c'est là que se pose tout le problème moral en fait. C'est jusqu'où lui-même va pouvoir aller. Pour apporter vengeance et à quel point il va faire de l'empathie pour la maman, la décédée, etc. Finalement, il retourne voir le producteur et il le marave avec la crosse de son flingue. Comme ça, bon, du coup, il n'y a pas de trace, c'est bon.
Ah, et puis il le marave bien.
Et... Ah oui, il le tue, hein, il le massacre.
Et il décide de cramer les effets personnels du producteur qui étaient plus ou moins que des trucs porno. Parce que bon, tant qu'il y a à faire. Et là, il appelle différents hôpitaux de New York pour retrouver la machine qui a été blessée à l'abdomen.
C'est pas un Pokémon, ça, Topito ?
Et là, il m'a fait perdre le fil.
Il cherche la machine, il cherche la machine.
Ah oui, il a différents hôpitaux, il a retrouvé l'adresse de la machine qui vit avec sa maman.
Oh, maman.
Et... Là, il va y avoir toute une scène de tension où il rentre dans la maison de la machine où la musique, enfin le vinyle. Alors,
déjà, faut parler de la maman de The Machine, ce qu'on connaît, qui s'appelle George, son prénom, je crois. Sa maman est une personne très religieuse, puisque le moment où elle va quitter la maison et où Nicolas Cage va pouvoir obtenir vengeance pour Marianne,
à la paroisse.
Elle prend le bus, elle va à la paroisse, et donc elle prend le bus de la paroisse, en disant à son fils... qu'on ne voit pas encore sans son masque, hein, du coup on ne le voit pas encore en lui disant juste il est hors champ, et elle lui dit j'espère qu'un jour tu retourneras à l'église avec moi. Donc il y a d'un seul coup un gouffre encore qui se crée, et tu comprends plein potentiels problèmes de psyché de ce personnage-là, qui vont être démontés après dans son monologue de fin, où tu te dis ah oui d'accord, c'est élevé par sa mère sûrement dans un milieu très pauvre, dans un milieu très très religieux,
peut-être religieux trop surcouvé, tu sais pas, tu vois, comme tu dis, peut-être qu'il a vécu un traumatisme dû à ce truc religieux. Vraiment, il y avait peut-être un truc à creuser.
Je trouve ça plus intéressant qu'au final, ce ne soit pas creusé.
Oui, c'est pour ça que ça fait pour moi son monologue de fin dont on va arriver là. Et aussi intéressant que le coup du pourquoi il l'a fait ? Parce qu'il le pouvait. Et là, il va y avoir tout un moment de tension parce qu'il arrive à rentrer par la cave dans la maison.
Nicolas Cage, rentre dans la maison.
Là où sa mère est partie, donc il n'y a plus que George. Et il va y avoir de la musique. Ultra forte. Et à un moment donné, ça va s'arrêter, donc il va y avoir que le vinyle qui joue.
Enfin, le vinyle s'arrête en fait. Ça, c'est la fin de la phase du vinyle, et c'est le diamant qui ne revient pas en fait, qui vient pas. Le bras du diamant se lève pas, et on entend le crépitement du vinyle et le diamant qui bute sur la fin du. La fin
là, Nicolas cherche. Il est au premier étage, il redescend. Hop, la musique redémarre. Aurait-il mal regardé sur le premier étage ? Je pense. Là, il va rencontrer.
Non, je pense que Georges a fait un effet Michel Meyer, parce que Nicolas Cage a regardé dans toutes les pièces de l'étage.
Et puis même, le Georges, c'est pas le petit gars discret, quoi. C'est le gros gars de 2 mètres qui doit peser 150 kilos et qui a réussi, alors que Nicolas Cage descend de 2 marches dans l'escalier, à aller dans sa chambre, rallumer.
Et ça,
le
c'est
truc
un truc que j'arrive pas à savoir
il
comment
caché.
Il a fait pour savoir que Nico était là.
Mais pareil, il n'y a pas de raison. En fait, il faut vraiment s'imaginer cette scène hors du. Enfin, genre. Cette scène, c'est vraiment une scène non plus de film noir, non plus de thriller, c'est vraiment une scène de film d'horreur, c'est une scène d'épouvante, et c'est comme ça qu'il faut la lire, et je pense que même si elle sort un peu du réalisme dans lequel on est plongé depuis le début, elle permet d'amplifier en fait la monstruosité et au final la non-monstruosité justement de Machine. Parce que du coup là il est encore plus montré comme un monstre. Et c'est ce qu'on apprendra après, c'est pas un monstre le type. Genre on s'attend à voir un Michel Meyer, on s'attend à voir un Jason Voorhees, on s'attend à tout ça.
Va y avoir blagarre, enfin bagarre.
Oui là c'est de la vraie bagarre là.
Il tombe de...
C'est de la bagarre.
Ouais, il passe du premier étage, il tombe. Et très drôle, ils sont dans un cimetière. Bagarre, 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 bagarre. Nicolas va mettre un coup critique à George. Et George va lui... Et Nicolas va lui demander aussi. Pourquoi? Et non, je crois qu'il lui demande même pas. C'est l'autre qui parle tout seul et qui dit... Bah, j'ai eu une vie heureuse, j'ai pas vécu de sévices quand j'étais jeune.
C'est parce qu'il lui demande d'enlever son masque à la base. Et genre, quand il enlève son masque, Nicolas, il est choqué parce qu'il s'attendait vraiment à voir un monstre, en fait, comme il dit.
Alors que c'est un nounours.
Et lui, il dit, bah, tu croyais voir un monstre. Et genre, il met ses lunettes toutes minium, c'est un gros nounours. Et puis il dit, j'ai pas eu de problème d'enfant, j'ai pas été battu, j'ai pas été maltraité, j'ai pas été abusé.
Ouais, parce que j'aime ça. Et ça, c'est fou, je trouve, que la justification du... Pourquoi t'es devenu monstrueux? C'est juste que bah, j'avais envie d'essayer, j'ai kiffé, puis maintenant je continue. J'ai pas de background qui fait que ça devait m'amener à ça.
Voilà, il partait pas avec un bagage comme on s'imagine ou comme dans les théories des tueurs psychopathes ou des serial killers. Souvent, on voit qu'il y a quand même des schémas récurrents qui reviennent, une maltraitance en étant enfant, des choses comme ça. Lui, non, en fait. Lui, pas du tout. Ce qui le rend encore plus dangereux, finalement.
C'est ça, et ça fait notre troisième justification, ça va être aussi la dernière justification, en fait, de ce style-là. Et pour rappel, les trois justifications, c'est « je peux », « je le fais parce que c'est comme ça » et « je le veux ». Et je trouve, quand je parlais de sociologie et tout ça, je trouve ça incroyable, parce que c'est vraiment ce qu'est l'homme, quoi. C'est... Enfin, je sais pas, moi ça me touche beaucoup en fait. Ces trois personnages monstrueux,
mais
oui, ils
sont déviants parce que la société les classe comme déviants, mais dans leur référentiel à eux, ils ne sont pas déviants. C'est peut-être nous qui sommes déviants,
non, c'est,
même
c'est
si en tout cas pour The Machine, on a bien compris qu'il était conscient qu'il ne rentrait pas dans la norme,
oui,
mais ça l'empêche pas de le faire quand même.
C'est ça. Et dernière scène, on voit Nico qui est rentré chez lui. Ça a l'air d'aller mieux avec sa femme et sa fille. Il reçoit une lettre de la maman de Marianne parce qu'il lui avait tout dit. Il lui avait dit en fait qu'elle était morte, voilà. Et elle lui envoie un message le remerciant parce que maintenant elle a au moins des réponses. Et le film se finit sous une note plutôt joyeuse, on va dire.
Oui, parce qu'elle a accès. Elle était très en colère. Oui. Elle lui dit dans la lettre qu'elle était très en colère qu'il lui ait dit que Marianne était morte parce qu'elle avait donc il a brisé l'espoir qu'elle avait
ça.
De la retrouver.
Mais elle a
un
pu
jour.
Faire son deuil.
Elle a pu faire son deuil, l'accepter. Au final, ça lui a permis de repartir sur quelque chose et de se reconstruire.
Exactement. Et c'est comme ça que se finit 8 mm. Place aux conclusions. Vivien.
Conclusion.
Vivien. Conclusion.
Alors. Conclusion. Moi j'aime beaucoup ce film. Je vous avoue que l'imagerie ne m'intéresse pas tant que ça, parce qu'elle est souvent répétitive et elle est pas très... C'est pas qu'elle est pas jolie, c'est juste qu'elle est un peu brouillonne, je trouve. Donc je vais pas parler de technicité, je vais vraiment parler du scénario et encore une fois de cette dernière partie de film que je trouve incroyable humainement. Les trois justifications, enfin c'est vraiment... C'est presque un... J'ai envie de dire, c'est presque un... Comment dire, un dicton, un... Un phasage, non, un quoi, je sais plus, bref.
Un adage,
voilà. Bref, ça me touche beaucoup, et je pense que c'est en grande partie pour ça que j'aime le film, parce que ces trois répliques, et surtout le monologue, enfin la tirade de Machine à la fin, sont incroyables, c'est des choses qui me touchent beaucoup, et rien qu'avec ça, en fait, ça me fait aimer tout le reste du film, que je trouve quand même très bon. Donc on a beau avoir un petit peu des acteurs qui cabossinent, enfin j'ai envie de dire c'est Nicolas Cage, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup et je ne comprends pas comment il a pu être aussi mal critiqué, surtout dans son...
Je pense qu'il est arrivé un peu tard.
Aujourd'hui, je comprends, mais... Ouais, un peu tard, mais encore plus aujourd'hui. Je pense que vous allez en parler, mais dans le film, le snuff movie est pris comme un mythe, genre comme une légende. Aujourd'hui, ça, il n'y a plus de mythe. C'est, c'est Internet, t'as tout ce que
tu veux.
Mais
Internet, c'était pas encore ce que c'est devenu aujourd'hui à l'époque du film, c'est ça.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le film va sûrement beaucoup vieillir, en fait, sur, son, sur ce message-là. Mais sur tout le reste, je trouve que ce film est à réfléchir et te donne à réflexion.
Merci, Vivien. Olivier.
Conclusion. C'est un film très agréable, malgré le sujet qu'il aborde. Ça n'a pas été évident, finalement, de je vais digresser deux secondes, de faire cet épisode, parce que pas facile d'en parler, d'arriver à trouver des mots qui soient pas trop, enfin, qui matchent avec ce que veut dire le film. Mais c'est un film qui est vachement, enfin, qui est très humain, parce que c'est des comportements déviants qu'on va suivre, pas les, enfin, en tout cas pour les personnages secondaires. Comme a dit Vivien, bon, Nicolas Cage, il fait du Nicolas Cage quand même, donc si vous êtes à l'aise avec ça, voilà, il cabotine beaucoup, il y a énormément de surjeux des fois, mais on sait, on tolère, c'est comme ça, hein, c'est vraiment pas le plus dérangeant. L'étalonnage, je trouve, que du film est globalement très intéressant, le traitement des couleurs est vraiment bien fait, enfin, il n'y a rien qui jure vraiment. Alors oui, on a parlé du filtre orange et très rapidement du filtre bleu, mais ça, c'est des classiques qui permettent de situer une action alors qu'elle n'a pas du tout été tournée à l'endroit où c'est censé se passer, par exemple. À part ça, il est très ancré dans son époque, par contre. Il n'a pas mal vieilli parce que l'image et les intentions de réalisation sont bonnes. Du coup, il a encore une belle longévité, je pense, derrière lui, avant qu'il devienne vraiment trop banal et cliché. Et c'est essentiellement dû à l'image. Par contre, il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées dedans par Nicolas Cage sur la numérisation de photos, de films, etc. Et là, pour le coup, bah oui, on est clairement dans une époque révolue depuis très longtemps. Mais à part ça, à part deux, trois petits soucis, pour moi en tout cas, sur la gestion de son couple, parce qu'il s'engueule avec sa femme, il se réconcilie. Je trouve que le couple, finalement, on veut donner une image d'un couple qui fonctionne bien, et finalement, je trouve qu'il ne fonctionne pas si bien que ça, sauf à la fin. Mais à part ça, si ce genre de message ne vous choque pas, allez-y. Il n'y a pas d'image ultra violente, ce n'est pas un film ni gore, ni torture porn. Voilà. Il y a un plan beat dans tout le film qui est très, très furtif. Mais sinon, allez-y, c'est bien.
Merci, Olivier.
Et toi, Kevin, ta conclusion ?
Comme l'a dit Olivier, c'est un film très ancré dans son époque. Donc les problématiques la façon dont il est conté et raconté et ce sur quoi ça parle ne sont plus d'actualité. Je veux dire, il n'y a plus personne qui cherche des VHS ou ce genre de trucs. Aujourd'hui, Internet, c'est bien plus démocratisé. Donc faut vraiment être conscient de ça quand on le regarde. Je l'avais, dans mes souvenirs, il était quand même mieux, mais je l'avais vu très jeune et donc je pense que ça m'avait bien marqué, mais c'est un film que j'ai pris plaisir à revoir. J'ai vraiment, tout ne fonctionne pas, mais c'est deux heures qui passent très bien. Moi j'adore Nicolas Cage, donc même s'il cabotine ou il surjoue un peu, ça fait partie du personnage, donc moi il n'y a pas de souci, j'aime ça. Donc je conseille ce film. Vraiment, si vous aimez un peu les thrillers, les films un peu sombres, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais ouvrez-les quand même pour le regarder.
Ah, j'ai compris.
Et voilà, donc moi vraiment c'était un agréable moment. J'avais un peu peur parce que ça faisait longtemps que celui-ci était dans les cartons. Et on s'était toujours dit, on sait pas comment on va l'aborder, on sait pas ceci, on sait pas ça, parce que ça reste le propos est très dur.
Et je pense que ça se sentira dans le
oui, bah oui,
la version finale. Il n'était pas facile à aborder.
Et puis ça va se sentir. Je pense que certains vont sûrement nous faire la remarque qu'il y a beaucoup moins de déconnades que sur d'autres trucs parce que le film s'y prête un peu moins. Après, on va pas forcer les blagues pour faire des blagues. Ça ne sert à rien. Et puis surtout, nos blagues arrivent quand elles arrivent. Hein. Et voilà, donc c'était notre avis sur 8 millimètres. Pardon.
Allez le voir. Il pue sur les plateformes.
Non, important de dire. C'est dommage. Il était sur Netflix il y a encore peu, mais il n'y est plus.
Heureusement, j'avais le DVD et du coup, j'ai pu le prêter à mes.
Bah, c'est pour ça qu'on s'est vu hier d'ailleurs.
Enfin, copains, pour qu'ils puissent le voir.
Et c'était donc le deuxième épisode où j'enregistrais. Le prochain sera celui de Vivien. Et quel film j'ai choisi pour lui ? C'est un super film. Enfin,
vas-y, dis-moi, comme ça je pourrais aller lui dire rapidement. Il va être.
C'est Jurassic World. Ah, je sais.
Qui va pas être très content au
on
final.
On va avoir plein de trucs à dire dessus.
Vivien ? Jurassic World.
Vivien !
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Ah, tu l'as enfermé dans sa cage.
Ah ouais, non, mais ça va pas être facile, hein.
Ah d'accord, il joue un
personnage. Ouais, attends, laisse-le.
Ok, non, c'est intéressant. Je vais te manger les câbles, s'il te plaît. Donc du coup, Jurassic World, il a dit non.
Mais je m'en bats les couilles.
Bon. Je m'en bats les couilles. Ok, donc la semaine prochaine, Jurassic World. Et je serai présentateur, et vous inquiétez pas, je serai en forme, parce qu'aujourd'hui, voilà, le film était pas facile, on l'a dit. Faire des blagues sur la pornographie, sur le meurtre et tout ça, mis ensemble l'un dans l'autre, c'est pas facile. Mais on y arrive.
Ok, je pense qu'il est temps de finir, de clôturer cet épisode. C'était un réel plaisir d'enregistrer avec moi et vous. Et semaine prochaine, on aura Jurassic World.
Non, c'est pas le bon. Ils ont refait le thème pour Jurassic World et c'est de la merde.
Mais déjà, mais même mon thème, c'était pas le bon. Donc.
Si, c'était le bon. C'était du John Williams. C'était le bon. Recommence.
Bon, on s'en fout, on y va.
Et moi, du coup, je vais y aller parce que c'est piscine.
Dans tous les cas, la semaine prochaine, on est à d'autres dinos. Et on va faire la fête.
Hey, Dino Velvet.
Dino Rider, ça va être trop
c'est
bien.
C'est-à-dire qu'on va faire du p*** sur le dos de Dino.
Ok, je crois que lui veut couper ton micro directement. Likez, commentez, partagez, activez la cloche, faites des bisous à ceux que vous aimez. Parlez pas à ceux que vous aimez pas. Mais en tout cas, parlez de nous autour de vous, ça fait toujours plaisir à nous.
Et ça y est, voilà. Mes anxiolytiques font effet en fait. Allez,
bisous. Constantin.